Vous êtes sur RTL.
Christophe Paco sur RTL.
Avant votre rappel des titres, la question du jour sur RTL.fr. Selon vous, est-il normal de distinguer collégiens et lycéens vaccinés des non-vaccinés? C'est l'annonce du matin du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour, Dimitri.
Bonjour.
Vous êtes prof?
Professeur, oui, professeur.
Professeur, c'est mieux, hein, professeur.
Oui, c'est toujours plus ouais. Prestigieux.
Vous avez complètement raison. C'est vrai, on ne dit pas non, on dit journaliste, par exemple, ouais. On dit professeur. Qu'en pense le professeur de cette décision bien un mois avant la reprise en France?
Écoutez, je comprends qu'il faille des solutions, mais c'est vrai que ça va poser des questions, des inquiétudes même concernant l'équité, concernant la suite de l'éducation de l'enseignement de tous ces jeunes. Donc en effet, interroger.
On s'interroge tous ensemble, 32-10, 3-2-1-0. On vous retrouve juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, bien évidemment. Sans demander pardon, Emmanuel Macron a affirmé que la France avait une dette à l'égard de la Polynésie française pour avoir réalisé près de 200 essais nucléaires dans le Pacifique pendant 30 ans, et ce jusqu'en 1996, reconnaissant d'ailleurs que ce dossier sensible affectait la confiance entre Papeete et Paris. Il a notamment annoncé, Emmanuel Macron, que les victimes de ces essais, dont certains souffrent encore de cancer, devraient être mieux indemnisées. Le pass sanitaire dans les transports et son entrée en vigueur est fixée entre le 7 et le 10 août. L'extension du pass sanitaire donc va rentrer en vigueur avec notamment dans les trains des contrôles qui seront systématiques à l'extérieur, évidemment des wagons, mais à l'intérieur ce seront des contrôles aléatoires. Et puis à la rentrée, on vient d'en parler à l'instant avec Dimitri, collégiens et lycéens non vaccinés resteront chez eux s'ils sont cas contact Covid, tandis que les classes resteront fermées dès le premier cas en primaire comme l'an dernier. On est en pleine vague, hein, de quatrième vague même épidémique, et le ministre de l'Éducation a donc pris les devants avant la rentrée de septembre. Le moral des ménages a un peu reculé en ce mois de juillet après sa nette hausse en juin, illustrant notamment une prudence, hein, dans la volonté de consommer au moment d'une nouvelle reprise tout de même de l'épidémie qui empêche peut-être certains d'entre vous d'aller faire vos courses normalement. Et enfin cette belle médaille, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette médaille, la troisième en or, c'est la huitième au total pour l'équipe de France olympique. Elle vient de l'aviron et le duo Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Petit espoir d'une neuvième médaille cet après-midi, on en parlait avec Christian Olivier tout à l'heure, avec les basketteuses françaises du 3-3. C'est normal, ça joue à 5 contre 5. Là, c'est une nouvelle épreuve, c'est le 3-3. Et n'oubliez pas votre rendez-vous comme tous les soirs. On refait les Jeux Olympiques avec Marie Portolano ce soir et Christian Olivier, les 13h04.
La table allongée sur RTL.
Et pendant tous ces Jeux Olympiques de Tokyo, bien sûr, Isabelle Langer vous propose de découvrir ces champions et des champions français rencontrés par l'intermédiaire de leurs parents. Par ce prisme, nous allons feuilleter donc le livre de leur vie, comme tous les jours, et découvrir leurs petits secrets pour décrocher une médaille. Dans ce nouvel épisode, c'est le cinquième, Isabelle a rencontré Meriem, c'est la maman d'Evan Fournier, le joueur des Celtics de Boston, qui a grandi à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, tout près de l'INSEP où ses parents s'entraînaient, notamment quand ils étaient, eux, judokas, Isabelle Langer.
Chapitre 1, Bébé Lolo.
Meriem, Evan est né le 29 octobre 1992. Vous vous souvenez de ce jour-là?
Je me souviens que j'avais accompagné mon mari à la gare. Tout allait bien, je suis rentrée, je me suis couchée et je me suis levée avec des douleurs. Il y avait mes parents. Ma mère m'a accompagnée, mais j'arrivais pas à sortir la voiture. J'ai demandé tout de suite une péridurale. Elle me dit, mais non, montez sur la table, ça y est, il arrive. Ça a été très rapide.
C'était un beau bébé?
3,9 kg. Je sais pas si je dois le dire, mais quand il est né, j'ai trouvé qu'il était pas beau. Il est resté un peu longtemps au passage, donc il avait la tête un peu allongée, mais il était très vite très beau.
C'était un bébé tranquille?
Ça a été un enfant très sage, il prenait le sein, ça l'a beaucoup aidé je crois, et il l'a pris tard. Je n'oserais pas le dire, jusqu'à 5 ans.
Chapitre 2, le basket par hasard.
Il faisait des bêtises?
Oh oui, moi j'appelais pas ça des bêtises, mais il nous enlevait les lacets des chaussures, il attachait toutes les portes, tout ce qui était ceinture, cordon, il attachait toutes les poignées entre elles.
Sa chambre d'enfant, ça ressemblait à quoi?
Sa chambre, c'était une chambre de basketteur, posture de basket.
Dès quel âge?
Alors, il a commencé le basket à 8 ans. Il a découvert la NBA et ça a été tout de suite la NBA. Et son idée, c'était aller en NBA.
Il a fait d'autres sports?
On l'a mis très rapidement au bébé nageur d'abord. Il a fait baby gym aussi, à l'athlétisme. Comme je donnais des cours de judo, il voulait faire du foot, mais c'était déjà complet. Le rugby, les horaires ne correspondaient pas avec les miens. Et donc, il a dit, oh, ben, le basket, j'aime bien. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait par hasard.
Chapitre 3, Objectif NBA.
Vous vous souvenez de sa première coupe, première victoire?
Je me souviens du premier match. C'était, je crois qu'il était en mini-poussin. Ils ont gagné. Et en entrant ici, il était très étendu. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Et il nous dit, mais tu te rends pas compte, c'est dur. Alors qu'il avait gagné, hein. Mais il était très tendu, il voulait absolument réussir, parce que pour lui, il faut gagner. Hein.
Quand il est drafté, il a 19 ans, qu'est-ce qu'on ressent quand on est maman?
Moi, franchement, j'étais soulagée. J'avais tellement peur qu'il soit déçu. Il avait dans la tête ça depuis des années. Donc c'était son objectif.
Il est toujours très attaché à Charenton?
Ah oui, oui, c'est sa ville, Charenton. D'ailleurs, vous avez vu, il a repris le numéro 94. Non, il est charentonnais, hein.
Ses copains de l'époque.
C'était à son mariage, hein. Ses copains, c'est important. Depuis qu'il est enfant, les copains, la famille, c'est important.
Chapitre 4, la face cachée d'Evan.
Sa plus grande qualité.
Oh là, c'est difficile. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Il est perfectionniste.
Son plus gros défaut, même si quand on est une maman, on a du mal à en trouver.
Il ne m'appelle pas assez.
S'il n'avait pas été basketteur, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire?
Quand il était enfant, il nous disait qu'il aurait aimé être archéologue.
Il est marié à Laura, sa chérie, rencontrée à l'INSEP quand ils étaient encore ados.
Laura, c'est tout, hein. C'est son support, hein. Ils se sont retrouvés aux États-Unis jeunes, tout seuls. Ils se sont construits là-bas. Non, Laura, c'est sa femme, c'est la mère de son fils.
Son fils, justement, il est papa. Comment il est comme papa?
Oh, il joue beaucoup avec son fils. Mais en même temps, il est strict, je trouve. Pour moi, un peu trop.
Épilogue.
Quel regard vous portez sur l'homme qu'il est devenu?
Ah, j'avoue que je suis assez fière parce qu'il ne s'est pas laissé griser par ce qui lui arrive. Il a la tête sur les épaules. Il est très sérieux dans certains domaines. Et en même temps, il est très cool. Il est très rigolo, il s'amuse, il fait des blagues. Il est accompli, je dirais. Je suis assez fière de mon fils.
Myriam, Evan est à Tokyo, sans sa famille. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui?
On n'a pas besoin de lui dire grand-chose, mais je lui dirais qu'on est derrière lui, qu'on le soutient, et qu'il faut qu'il croie en lui et qu'il booste son équipe. Voilà. Mais sinon, non, qu'on est derrière. Mais de toute façon, il le sait, ça.
Toujours derrière les plus grands, vous avez bien raison. Bravo, Isabelle Langer, accompagnée pour la réalisation de Dany Matouk.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
On revient à notre thème du jour, il concerne l'école. Oui, ça arrive bientôt, dans plus d'un mois. Pour les dom-toms, ce sera un peu avant, ce sera juste à la fin du mois d'août. Selon vous, est-il normal de distinguer collégiens, lycéens, vaccinés des non-vaccinés, puisque le ministre Jean-Michel Blanquer, on le rappelle, a annoncé ce matin que dès qu'il aura un cas de Covid, eh bien dans une école, ceux qui sont vaccinés pourront poursuivre leur éducation, évidemment, dans les locaux. Les autres devront, les non-vaccinés, rentrer à la maison. Dimitri, professeur, j'ai bien noté tout à l'heure, qui est avec nous, professeur.
Non, enseignant, c'est pareil.
Alors, vous les changez à chaque fois, professeur. Professeur de français, en tout cas. Vous êtes dans quelle région, d'ailleurs?
À Melun, en Seine-et-Marne.
À Melun. Oui, le souci, on en parlait tout à l'heure avec les représentants de la FCP, on se disait que, finalement, enseigner, c'est une question que je vous pose très pratique, enseigner à deux personnels, à deux, j'allais dire, deux cas différents, celui qui restera à la maison, celui qui va rester à l'école, comment ça se passe? Et comment ça va se passer?
Alors, comment ça va se passer? Pour être franc, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va à l'encontre de beaucoup de principes de l'enseignement, puisque c'est vrai qu'on a des classes. Et l'idée quand même première, c'est de ne laisser tomber aucun élève, même les plus en difficulté. Et là, on va être, j'imagine, donc contraint de proposer deux enseignements, mais deux enseignements qui...
Mais en même temps, c'est ça le souci?
Pas de la même qualité, puisque en vérité, aucun...
Non, mais vous n'allez pas faire, pardonnez-moi, vous n'allez pas faire deux cours différents, vous allez faire un même cours avec des présentiels et des distanciels, on est d'accord? Ou pas.
Alors, en théorie, mais en pratique, je crois qu'aucun enseignant, et ça, sincèrement, toute franchise, aucun enseignant ne sait vraiment ce que ça signifie d'enseigner à la fois en présentiel pour certains élèves et en distanciel pour d'autres élèves. Ce qui est sûr, et je vous le dis en toute franchise, c'est qu'à distanciel, évidemment, que la qualité de l'enseignement n'est pas la même.
Vous l'avez ressenti, ça, déjà? Oui.
Sans quoi, d'ailleurs, on ne servira à rien. Et bien sûr, la qualité de l'enseignement n'est pas la même. Et d'autant plus, les élèves, surtout moi, mes collégiens, vous voyez, surtout les plus jeunes, n'ont plus, je crois, la force, l'énergie pour suivre à distance, comme peut-être ils l'avaient fait déjà pour le premier confinement. Mais oui, le troisième confinement a été certainement celui de trop. Beaucoup d'élèves ont abandonné et on peut le comprendre. C'est très difficile, ils n'ont plus la force, oui, d'avoir cette énergie pour suivre à distance. Donc, ça va poser de vraies inquiétudes, puisque certains élèves seront de fait coupé dehors du système.
Donc c'est une sorte d'inégalité qui va s'instaurer, on est d'accord là-dessus?
C'est une sorte d'inégalité, oui. Après, c'est difficile aussi d'accabler les décisions du ministère, puisque il faut des solutions. Il n'y aurait pas une solution, on se serait tous plaints qu'il n'y en ait pas. Il y a des solutions qui sont proposées, mais qui va engendrer d'autres inquiétudes, qui va engendrer d'autres problèmes.
Quel problème plus important qui peut être soulevé avec ce genre de... C'est quoi? C'est l'instauration de barnums devant les établissements pour vacciner tout le monde? C'est ce qu'on vient de se raconter tous les deux, c'est que c'est difficile pour vous enseignants de faire les deux en même temps? Vous n'allez pas rajouter des heures de cours?
Bien sûr, ça, de toute manière, je ne crois pas que ce soit prévu dans nos emplois du temps. Non, la difficulté pour les enseignants, ça va être, je crois, d'accepter que certains élèves puissent avoir ce temps de retard que la distance va générer, va imposer. Après, je crois que les problèmes les plus grands seront aussi ceux des directions, des établissements, pour mettre en place, dès la rentrée, hein, si j'ai bien compris, les centres de vaccination.
Oui. Partout.
Je sais.
6 ou 7 000, visiblement.
Ouais, partout. Je ne sais pas si, en pratique, ça sera possible, parce qu'il y a une chose qui sont les élèves qui ne seront pas vaccinés parce que les parents le refusent. Oui. Ce que l'on peut comprendre, hein, parfois, certains parents qui ne sont pas d'ailleurs anti-vaccins ne veulent pas prendre la responsabilité sur le long terme que leurs enfants soient vaccinés.
Oui,
ce que je peux comprendre.
C'est les
12-17
ans, hein, bien sûr. C'est 12-17 ans.
Bien sûr.
Vous pouvez rester avec nous, Dimitri, si ça ne vous ennuie pas, si vous pouvez rester un petit moment.
Je suis pas pressé, j'ai que ça à faire.
Ah, mais vous êtes en vacances, c'est vrai. Vous n'avez pas vos cahiers de vacances? Moi, j'adorais ça quand j'étais petit. T'avais ça, Greg, toi aussi, des petits cahiers de vacances?
Bien sûr.
C'est génial.
Spécial. Non, moi, j'ai arrêté de faire mes devoirs depuis.
C'est vrai?
On n'a plus les mêmes devoirs, en tout cas.
C'est bien ce que je pensais. On est pareil.
C'était les passeports.
C'est les passeports, oui, vaccinales surtout. 13h12, on continue de parler avec vous. On parle évidemment de cette décision annoncée ce matin, avec en cas de cas positif dans les lycées et les collèges, bien les vaccinés pourront rester étudier avec leurs professeurs préférés. Les autres devront s'adapter et donc assister aux cours, cette fois, à distance. Si vous voulez parler de la relance économique, et Bruno Le Maire qui l'a rappelé, le gouvernement, comme toujours, derrière, évidemment, les entreprises en difficulté, si vous êtes des professionnels du spectacle, de l'événementiel, du cinéma, de la culture en général, si vous êtes touché par cette mesure, est-ce que vous appréciez donc ce coup de main, encore une fois, ce coup de pouce de la part du gouvernement? Puis parlez-moi d'aviron, ça me ferait plaisir, c'est un sport tellement extraordinaire. Venez me parler de la médaille d'or, la 3e médaille d'or pour la délégation française, la 8e avec le duo, le deux de couple Mathieu Andre-Drias et Hugo Boucheron. Ça me ferait tellement plaisir de parler des Jeux Olympiques avec vous, ou de Simone Biles, ce cas incroyable, hein, cette gymnaste qui arrête en pleine compétition, elle quadruple médaillée lors des derniers Jeux Olympiques à 5 en Rio, et qui pendant la compétition arrête, trop de stress, la pression des fantômes du passé qui apparaissent. Et puis on terminera en musique. Greg, c'est d'accord? La chanson de l'été?
Avec plaisir.
J'adore ça, juste avant 13h30.
Le Grand Bleu, par exemple.
Bah c'est bientôt pour nous, non?
Oui.
Les vacances?
Dans quelques jours.
Enzo, Mio Palmo. Le Grand Bleu, quoi. Classique.
13h14. La pause.
On y va.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
C'est notre question du jour sur RTL.fr. Elle vous fait réagir sur le 3210. Hein. S'il y a un cas de Covid dans une classe, évidemment pour les lycéens et les collégiens, il faudra distinguer les vaccinés des non-vaccinés. C'est très simple. Ceux qui seront vaccinés resteront en cours. Et les autres en présentiel, comme on dit. Puis les autres en distanciel. Ce ne sera pas simple. Comme on en parlait avec Dimitri qui est resté avec nous, qui est professeur de français en collège à Melun. À vos côtés, voici Laurent qui nous rejoint. Bonjour à vous, Laurent.
Bonjour Christophe.
Vous êtes de quelle région de France, vous?
La Picardie, de
Ah, la Picard, et Picard. Comment ça va se passer pour vous?
C'est les Hauts-de-France maintenant, mais...
Ben oui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, j'ai toujours du mal, hein. Mais bon, c'est pour... on restera la Picardie, la Franche-Comté, la Bourgogne, on va pas tout relier, même si on l'espère. Enfin, on garde nos racines, monsieur. Oui, dites-moi, Laurent, en tant que professeur de physique, c'est ça? C'est bien ça?
Physique, chimie, oui, tout à fait. Chimie.
Vous faites comment pour donner des cours, vous, en présentiel, en distanciel, en même temps?
Alors, on a déjà fait cette année, puisque les cas contacts restent chez eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une caméra, soit un ordinateur portable, soit une caméra reliée à l'ordinateur, au milieu de la classe, en face, hein, qui vise le bureau, en fait, en quelque sorte. Mmh. Et les élèves suivent comme ça... en distanciel.
D'accord. Mais... Dimitri disait qu'il y avait un décalage quand même. Dimitri, t'es resté avec nous. Vous êtes d'accord là-dessus?
Ouais. Déjà, quand on a que du distanciel, c'est-à-dire que tous les élèves sont en distanciel, ils n'acquièrent pas les compétences de la même façon que lorsqu'on est en présentiel, ça c'est clair. Mais alors, c'est encore plus vrai lorsque, il n'y a que quelques cas contacts qui sont en distanciel et les autres sont devant vous dans la classe. Il est difficile d'interagir. Mmh. avec des élèves qui suivent sur l'ordinateur de chez eux par rapport aux autres qui sont devant vous.
Et puis dans les travaux pratiques, parce que de mémoire, quand on faisait de la physique-chimie, nous, on découpait les petites grenouilles.
C'était alors, terrible. En physique, non, enfin, c'est pour la SVT.
Mais... Oui, la SVT, oui, pardon.
mais effectivement, c'est, la physique-chimie, c'est une science expérimentale.
Oui, on fait des expériences, on fait un peu de fumée. Oui.
Exactement, les TP en distanciel, c'est impossible. On ne peut pas faire exploser une salle de chambre.
Oui, ça va être sympa, les parents vont être contents de vous avoir comme prof. Hein.
Oui, voilà.
Bon, alors aujourd'hui, on va tenter de mettre le petit fil rouge sur le bouton rouge. Le bouton vert. Vous nagez bien, chef. Et donc, non, vous voyez ce que je veux dire, ça va être très, très, très compliqué. Cette vaccination, je vous pose la question à vous, Laurent, à vous, Dimitri. Avec cette façon d'imposer la vaccination à tous, même des jeunes de 12-17 ans, déjà, vous, tous les deux, êtes-vous vaccinés ? Laurent,
Moi, oui. Je suis. Dès que j'ai pu me faire vacciner, d'accord, je l'ai fait.
Dimitri ?
Oui, moi aussi. D'autant plus quand même qu'il y a une bonne chose. Certains créneaux ont été ouverts pour les professeurs, pour les enseignants. Donc, d'accord, ça a été très facile de me vacciner.
Et vous comprenez que les enseignants aujourd'hui ont le droit de choisir, oui, aussi, de ne pas être vaccinés ?
Moi, je pense que ça devrait faire partie. On devrait être comme les soignants, en fait, parce qu'on est quand même au contact des jeunes, justement. Et voilà, je pense que ça devrait être aussi obligatoire pour nous. Oui.
Dimitri,
c'est pas grave, on va me taper sur les doigts.
Je vais être franc. En tant que fonctionnaire, je crois que ça ne me choquerait pas non plus qu'on nous impose, puisqu'on est en contact de tant d'élèves. Après, je serais embêté d'accepter que la liberté de chacun ne soit pas prise en compte. Donc c'est un vrai dilemme pour les enseignants aussi, et encore plus pour les parents d'élèves qui peuvent ne pas avoir envie de vacciner leurs enfants.
Avant de recevoir Claudine, j'aimerais bien avoir votre avis quand même à tous les deux, et surtout peut-être une sorte de philosophie. Qu'avez-vous retenu des différents confinements et de cette façon d'éduquer nos enfants de façon différente, qui sont un peu perdus quand même, ils ne sont pas leurs repères, leurs copains, leurs profs, bien souvent avec la fermeture des classes?
Oui, alors on a vu, bon, il y a plusieurs cas, mais c'est vraiment pas la même chose. On a vu vraiment la différence, comme le disait Dimitri, hein, entre le premier confinement et les autres. Et le suivi, les lacunes, même si on a fait les cours en distanciel, en visioconférence pendant tout le temps du premier confinement, on s'est aperçu l'année d'après que les élèves n'avaient pas suivi de la même façon et n'avaient pas acquis les compétences de la même façon que lorsqu'on est en présentiel. Et les élèves entre eux, enfin, ils en avaient marre aussi, ils nous le disaient. On est content de retrouver nos copains, quoi.
Ouais, une ambiance, quoi. Comme nous, quand on vient au bureau, hein, je vous le cache pas, quand on est au bureau, quand on est en télétravail, c'est pas du tout la même chose. Votre enseignement, justement, dans ce cas de figure, vous, Dimitri, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période, cette longue période?
Écoutez, on apprend assez rapidement que le métier d'enseignant, c'est un métier physique. Et peut-être que les élèves ne s'en rendent pas compte, mais notre présence physique permet justement cette transmission des savoirs, et cette absence qui a été générée par le confinement a fait perdre quelque chose d'essentiel. J'en suis franchement convaincu. Donc je pense que ça a été beaucoup beaucoup de pertes. On a essayé un peu de limiter la casse, mais beaucoup de choses ont été perdues pendant ces deux années d'enseignement, et donc il faudrait éviter que ça continue. Il faut trouver une solution plus vite.
Déjà on essaie d'avancer, on est le 28 juillet, on parle de la rentrée, on avance, on le voit bien, il faut mettre tout en place, notamment contrôler le statut vaccinal. Il faut aussi rappeler qu'on mettra des barnums un peu à droite à gauche pour vacciner quasiment devant tous les établissements. Et il faut arriver à bien travailler à distance avec vos ordinateurs et avec cette volonté, mais de tout à chacun, hein, que ce soit les parents, que ce soit vous, les enseignants et les enfants. Merci en tout cas pour ce très beau partage d'expérience. À vous, Dimitri et Laurent. Claudine nous attend sur le 3210. On vient vers vous dans une minute.
Christophe Paco. Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Et cette question du jour, donc, qui nous anime depuis tout à l'heure, est-il normal de distinguer collégiens, lycéens vaccinés des non vaccinés, puisqu'en cas de Covid dans une classe, eh bien, ceux qui seront vaccinés pourront rester assistés aux cours en présentiel, les autres seront donc en distanciel. Claudine, bonjour à vous, bienvenue dans Les Auditeurs ont la parole.
Bonjour à vous, merci de prendre mon témoignage, voilà. Je suis médecin, enfin j'étais médecin.
Oui.
Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention des deux enseignants, parce que je la partage, de leur civisme de s'être fait vacciner.
Parce qu'ils n'ont pas d'obligation, on le rappelle, hein, c'est pour ça. Hein.
Non, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'effectivement, l'école ne va pouvoir marcher que si le maximum de gens sont vaccinés. Je pose une question, simplement. Collège et lycéens, moi je suis 100% pour, je suis vaccinée. Mes petits-enfants, j'ai 5 petits-enfants qui sont au collège. Le problème, c'est que les cinquièmes n'ont pas 12 ans.
C'est ça. Les sixièmes n'ont pas 12 ans.
Et même certains cinquièmes, un des miens, qui a un an d'avance, est loin d'avoir 12 ans.
C'est ça.
Donc, en fait, ça pose une question pour ces enfants-là. J'ai vécu comme grand-mère les confinements. J'ai aidé mes enfants comme je pouvais,
oui.
Mes petits-enfants. Et c'est très difficile, surtout, c'est des classes charnières, c'est des classes importantes où la présentielle est indispensable.
Ah ben la sixième, c'est tellement terrible. Quand on quitte un petit monde, peu dans le cocon, alors, quoi, et qu'on arrive en sixième, déjà, on ne veut pas que les parents nous accompagnent.
Hein. Voilà, exactement.
Petit souvenir, hein, un petit vécu. Vous voyez ce que je veux dire, comme voilà. Vous, Claudine. Non, mais ce qui m'interpelle, alors, on dit 12-17 ans parce qu'il faut donner un âge, mais est-ce que ce n'est pas plutôt de dire de la sixième à la terminale, il faut être vacciné, quoi. C'est plus simple,
non ? De la sixième à la terminale.
Ouais, peut-être que c'est une histoire de sémantique, peut-être que le ministre est allé vite en besogne en disant 12-17 ans pour le reste. Voilà, peut-être qu'on peut juste se régler. Vous ne pensez pas que c'est juste une erreur d'appréciation ?
Je pense qu'il a oublié qu'il y avait des enfants peut-être qui étaient plus jeunes.
Ah, tout le monde n'a pas un an d'avance comme vos petits-enfants. Hein.
Non, mais...
Moi, ça ne m'a pas servi, j'ai redoublé après.
La majorité n'a pas un an d'avance, hein. Mais en sixième, ils n'ont pas 12 ans. Hein. Ouais, le problème, c'est que j'ai vécu des cas contacts, j'ai vécu des parents en difficulté pour... voilà, je suis médecin. Et j'ai été catastrophée par certains de mes confrères et qui n'ont pas été qui n'ont pas voulu se faire vacciner au début. Maintenant, ils sont plus partants, etc.
On pousse littéralement quand même. Voilà, on nous oblige, nous les parents, à envoyer nos enfants à se faire piquer automatiquement devant les collèges, puisqu'on va installer des barnums devant les lycées. Ça veut dire que on va pas se dire si mon enfant qui n'a pas le Covid mais qui a un cas de Covid ou un cas contact est obligé de rentrer à la maison, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Donc on est dans l'obligation vaccinale encore une fois, Claudine, pour être complet.
Oui, bien sûr, mais si on veut, si on veut pas se cacher la vérité. On ne s'en sortira.
D'accord, non, mais vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire vacciner aujourd'hui. On n'a pas assez de recul pour des enfants de 11 à 17 ans. On peut le comprendre aussi.
Moi, je peux le comprendre. La seule chose, c'est que ceux qui veulent se faire vacciner doivent l'aide pour que, effectivement, l'école puisse fonctionner au maximum en présentiel.
Très bien.
Et si on fait le quota, ce qui est normal, parce que c'est ceux qui sont potentiellement les plus touchés, les collégiens et les lycéens, il ne faut pas que ce soit l'âge qui entre en compte, parce que les sixièmes, qui est une classe charnière, vont être complètement paumés.
Moi, je pense qu'on peut, on le fait sur RTL ensemble, hein, on peut appeler le ministre de l'Éducation pour lui dire, mettez de la sixième jusqu'à la terminale, obligatoirement. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce sujet qui était passionnant avec vous, Claudine, comme avec les anciens et vos prédécesseurs tout à l'heure sur le standard, sur le 32-10, mais il va falloir avancer, c'est vrai. Et c'est pas simple pour ces 12-17 ans ou ces 6e jusqu'à la terminale, voilà, de savoir qu'on va être obligé d'être vacciné pour rentrer en cours. J'aimerais qu'on termine, Greg, tu es d'accord, par un sport, tu vois, un vrai sport complet, qui travaille les bras, les jambes, le fessier.
L'aviron ?
Ben c'est bien, t'as deviné, tu vois.
J'ai la fiche sous les yeux.
Il fallait trois mots pour toi. Oui, cette belle médaille d'or avec ce duo Mathieu Androdrias et Hugo Boucheron, deux de coupe, un spécialiste avec nous. C'est Mathieu qui nous appelle de Courbevoie. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
On est ravis de vous avoir. Elle est belle cette médaille parce que l'aviron, c'est vraiment un sport complet, quoi. Il faut inciter les jeunes, on parlait des jeunes, les futurs vaccinés, à pratiquer ce sport. C'est un sport tellement beau, tellement complet.
Oui, c'est un magnifique sport. Comme vous l'avez dit, c'est un sport complet. Historiquement, on a tendance à dire que c'est le sport le plus complet, le plus sportif, comme on dit, parce qu'on a un travail musculaire, des jambes, des dos, des abdos, des bras, et puis un vrai travail cardio. Donc, et puis on a surtout le plaisir de glisser sur l'eau. Et ça
c'est fou. Est-ce que c'est un peu comme en voilier ? On sent quand la quille bouge un petit peu ? Est-ce que dans le bateau, on sent aussi cette petite ligne que, voilà, on a l'impression qu'on est sur un rail ?
Ouais, on est sur un rail. Alors, sous le bateau, on a une dérive. On n'a pas de quille. Nous, on a des dérives sur les bateaux de compétition. Et puis, le but du jeu, c'est de faire filer le bateau le plus vite possible en essayant de s'économiser un maximum.
Elle est belle, cette médaille d'or ?
Elle est magnifique. Elle a été en plus jouée jusqu'au bout. On a tous eu peur dans les derniers coups où les garçons font une petite faute avec des conditions un peu difficiles. Mais c'est encore plus beau. C'était magique et puis avec un fabuleux, quoi.
Ouais, couple fabuleux. Mathieu Androdrias, Hugo Boucheron. Allez à Courbevoie, retrouvez Mathieu. Fête de l'aviron dès cet après-midi. Il est 13h28.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Pacaud sur RTL.
On termine en beauté, Greg. Oui, en
chanson. Avec la chanson de l'été, bien sûr.
Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Quelle est votre chanson de l'été qui vous rappelle plein de souvenirs?
Alors, c'est l'adolescence et c'est 28 degrés à l'ombre. C'est vieux, hein, ça date. Hein,
c'est chez moi, c'est à Monaco.
Oui.
Mais oui.
Et les paroles, enfin, je trouve que cette période, c'est vraiment génial.
Jean-François Maurice, Monaco, 28 degrés à l'ombre.
Voilà, c'est ça.
Tu me dis plus à moi.
Embrasse-moi quand tu voudras, enfin, c'est génial, il fait beau. Tout,
ah, voilà. C'est ça l'histoire. Embrasse-moi quand tu voudras, d'accord. Je me souvenais plus, moi, des paroles.
Ben voilà, c'est, on a besoin de chansons comme ça en cette période, et puis de chaleur, parce que alors là, moi, dans ma région, c'est même pas la peine.
Vous êtes où?
Je suis en Franche-Comté.
Ah, bah c'est une belle région, vous le savez. Né à Besançon, n'oubliez jamais. C'est fou, c'est trop, 28 degrés à l'ombre, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mais mes mains brûlent ta peau. Embrasse-moi quand tu voudras. Mais bonne journée, Sandrine, alors, bon souvenir. Merci d'avoir été avec nous, il est 13h30, il est grand temps de retrouver Eric Jean-Jean. Bon après-midi à l'écoute d'RTL, voici Bonus Track.